Cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodard le 21 décembre 89.
On m'a demandé de revenir un peu sur l'imagination. On a fait cette remarque et c'est très juste. Aristote parle de l'imagination. Imaginaire. Tous les psychanalystes parlent de l'imaginaire. Tous les psychologues parlent de l'imaginaire. Alors, c'est intéressant parce que c'est peut-être à l'égard justement du traité de l'imagination qu'on saisit le mieux la différence entre la manière dont Aristote, dans sa philosophie du vivant, aborde l'imagination et la manière dont les psychologues, dont Kant c'est assez particulier, mais dont Sartre regarde l'imaginaire et les psychanalystes disent ouvertement: nous étudions l'imaginaire, nous sommes tout le temps dans l'imaginaire. Alors, le souci d'Aristote et de saint Thomas, c'est une analyse philosophique par les causes. Alors, ils ne disent pas tout le temps, c'est les scolastiques qui alors font les quatre causes tout le temps. C'est beaucoup plus souple. Qu'est-ce qui spécifie la connaissance, l'objet? D'où vient la connaissance et la finalité? Donc, c'est assez facile à voir tout le temps quand il s'agit de la connaissance. L'imaginaire, c'est un état particulier dans lequel on se trouve. Vous êtes planeur à certains moments de votre vie. Vous avez une distraction. Ça arrive en écoutant un cours. Ou on s'endort, ou on est dans l'imagination. Ou de temps en temps, on écoute. L'imagine, dans un temps, une distraction. On se tient. La Madeleine de Proust. Dans une heure, on sera au repas. C'est la Madeleine de Proust. Alors, l'imaginaire, c'est l'exercice, une connaissance particulière. C'est un état, c'est l'exercice. On n'analyse pas, on décrit. On décrit. Alors on décrit avec beaucoup d'art, Proust. On décrit psychologiquement pour voir tous les liens. On décrit dramatiquement pour voir comment l'imaginaire vous met dans le fossé. C'est vrai. Pour avoir une distraction conduisant, tout un accident. Vous êtes laissé plaire. C'est ça qui est intéressant à voir. L'analyse qu'Aristote fait pour l'imagination, pour montrer qu'il y a un type de connaissance particulier qui n'est ni la sensation, ni l'unité des sensations, sens commun. Les sensations, cinq sensations. L'unité des sensations, sens commun. La représentation, les rêves. Et en dehors des rêves, l'imagination. Les rêves éveillés. On rêve. Le rêve. Les images. J'ai des images. Des représentations. C'est le domaine de la représentation. C'est pas le domaine de la signification. Mais sensation, représentation, signification. Je constate tout de suite, j'ai qu'à réfléchir quelques minutes sur ma connaissance pour m'apercevoir qu'en effet, les sensations, je colle au réel. suis dépendant du réel. Je vois une rose rouge, écarlate. Je la vois, pas maintenant, imaginativement. Je vous la représente. Et quand je suis devant face à un bouquet, je vois ça. Je regarde le ciel. Je regarde un petit animal qui passe. Je vois ça. Je le constate. La sensation. Et puis la représentation, c'est pas la sensation. La sensation terminée. Il y a des représentations. C'est très très cru. Je me représente ça. Et ça reprend tout de suite l'exemple. Je vois un bâtiment. Je ferme les yeux. Je me représente ce bâtiment. Alors ça fait cette constatation. Quand je vois, je peux compter le nombre de fenêtres. Si je ferme les yeux, je me représente le bâtiment. Je suis incapable de compter le nombre de fenêtres. Sauf si je les comptais avant. Autrement incapable. C'est la première constatation qu'il fait. C'est très curieux, ça. C'est que, de fait, il n'y a plus la même précision. Il y a un flou de la représentation. Et en même temps, il y a une synthèse. La sensation, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Puis il y a des fenêtres où il y a des... où les volets sont ouverts, les autres, les volets ne sont pas ouverts. Pourquoi ? Je constate comme ça. C'est discontinu. Dans la représentation, il y a une unité globale. Alors, je constate donc l'existence d'un type de connaissance particulier. Puis j'analyse cette connaissance. Comment le vivant qui est l'homme. Après, je me posais la question, est-ce que l'animal a de l'imagination ? Quels sont les animaux qui ont plus d'imagination ? Est-ce que c'est l'hippopotame ou le singe ? Les singes ont une imagination prodigieuse. Prodigieuse. Mais d'abord, je l'étudie dans l'homme. Parce que dans le singe, je ne sais pas exactement. Ça, c'est très difficile. La représentation que se fait le singe quand il voit un homme. Et ce qu'il se dit, c'est un singe manqué. Je me souviens, c'était à New York, au Soho de New York, qui est splendide. Il y avait un monde fou autour des singes. Alors, je me suis mis du côté des singes pour regarder les hommes. C'était presque plus intéressant. C'est très curieux, ce phénomène de la représentation. Alors je me pose la question, est-ce que je peux analyser l'image ? Alors je me pose la question, qu'est-ce qui spécifie l'image ? Ce n'est pas un objet. C'est ce que j'ai connu avant, que j'ai assimilé. Et donc l'image provient du sujet qui connaît. Alors je vois tout de suite ce caractère très particulier de la connaissance imaginative. C'est que le sujet se donne à lui-même son objet. Je peux me représenter quand je veux telle personne que je connais. On me dit son nom. Ah, c'est qui exactement ? Mais oui, il a le nez comme ça. Ah, très bien, je vois tout de suite. Mais on se représente. La représentation. Et on le fait quand on veut, quoi. J'ai un certain pouvoir de représentation. Et c'est très curieux, c'est que la sensation, il faut que l'objet soit là. Je me représente une rose, mais je ne la touche pas. Pour la toucher, il faut qu'elle soit là. Et pour la voir, il faut qu'elle soit là. Et donc, l'indépendance du domaine de la connaissance imaginative, c'est très subjectif. Je me représente la chose comme ça, de telle manière. Alors, voyez, l'objet de la représentation est donné par le sujet lui-même, qui lui imagine.
Est-ce que la mémoire est toujours indispensable ?
Alors, la mémoire va venir après, dans l'analyse. Et non, elle est toujours présente aussi, hein, dans la représentation. Mais l'analyse fait que je distingue mémoire d'imagination. Oui. Je suis obligé de distinguer. Et parce que j'essaie d'isoler, comme toujours quand on analyse. J'analyse la représentation, l'image. Alors, je vois, et c'est ce qui caractérise tout de suite le domaine de l'imagination, c'est que le sujet qui imagine se donne à lui-même son objet. Vous voyez ? Alors, si je passe à Kant, je parle de la subjectivité transcendantale. Tiens, tiens. C'est le sujet qui se donne à lui-même son objet. C'est quand même très intéressant, ça. Et c'est le sujet pensant, le sujet imaginant, qui se donne à lui-même. Alors, il sait très bien que ce n'est pas lui qui invente tout. Il y a eu des sensations antérieures. Mais il imagine. Et en imaginant, il fait des synthèses qui sont tout à fait particulières. Et comment se font ces synthèses ? Ah, parce que justement, il y a comme un renversement des sensations. Les sensibles communs passent devant les sensibles propres pour pouvoir faire des synthèses. Alors je commence à analyser. Qu'est-ce que c'est qu'une image ? Je me donne à moi-même le contenu de l'image. Mais ça provient d'autre chose avant. Avant l'imagination, il y a les sensations. Et c'est pour ça que je pourrais distinguer 10 différentes sortes d'imagination. Une imagination qui vient de la vue. Une imagination qui vient du toucher. Une imagination qui vient des sons. Et les gens, dans leur psychologie, les hommes, dans leur psychologie, ont des imaginations diverses. L'imagination de Proust, la Madeleine. C'est très particulier. La Madeleine. Et il y a des gens comme ça qui ont une imagination folle, du coup. Ils ont mangé un gâteau au chocolat. Eh bien, ils veulent retrouver ce chocolat extraordinaire qu'ils sont représentés. Ils ne le retrouveront plus jamais, parce qu'entre deux, il y a l'imagination qui en a fabriqué quelque chose de tout à fait différent. Je me souviens de quelqu'un que je connais bien, que je ne nomme pas ici. Il est mort, vous ne savez rien. Sa mémoire ne doit pas être liée à ça. Il était venu me voir à Fribourg, et comme il avait été dans le temps, au collège Saint-Jean, et qu'il se souvenait du chocolat de telle pâtisserie, dès qu'il est arrivé à la gare, je vais tout de suite aller là. Il a dit, ah, oh, c'est plus ça. Mais l'imagination, on a idéalisé. L'imagination idéalise très très facilement. Alors là, évidemment, on touche au souvenir. C'est très lié. Alors, donc, la faculté de synthèse, les premières synthèses sont imaginatives. Et elles sont imaginatives grâce à ce tissu des sensibles communs, qui sont la quantité, ça que c'est tellement proche de notre condition humaine. Nous sommes des pèlerins, et des pèlerins de l'image, de la connaissance. Et c'est pour ça qu'il y a l'imaginaire. Successivement, on voit des paysages différents. Et c'est une connaissance qui est toujours en devenir. C'est propre de l'imaginaire, de l'imagination. Une connaissance qui est tout le temps en devenir. C'est pour ça qu'on peut découper, mais c'est toujours un fluxus. Quelque chose qui passe. Le pan d'arrêt de l'imaginaire. Transposer le pan d'arrêt dans l'imaginaire. C'est d'une certaine manière, il n'y a pas de finalité. Il n'y a pas de point fixe. On est dans le devenir. Différence du pointillé de la sensation. Tandis que là, c'est du Chagall. Chagall, c'est l'art de l'imaginaire, du rêve. Alors, idéalisé par l'art. Tandis qu'au contraire, la sensation, c'est tout à fait différent. Il faut saisir ce caractère propre de l'imagination, qui est toujours un fluxus. Ça coule tout le temps. Et saint Thomas note, à la suite d'Aristote, qu'on n'a pas un pouvoir absolu sur l'imaginaire. Alors ça, c'est l'imaginaire lié à l'affectivité. C'est plus l'imagination pure. C'est lié à l'affectivité. Alors ça, on va le voir, le lien des passions et de l'imagination. Donc, saint Thomas étudie le caractère propre de l'imagination pour poser une faculté qui demeure dans le sensible. C'est une connaissance sensible et la connaissance du devenir. Donc, comme naturel à notre monde physique, mais qui se différencie selon justement la source de l'imagination qui sont nos sensations. Et là, il y a toute une étude qui serait très intéressante à faire, où les psychologues peuvent tout donner des choses intéressantes, vous voyez. Je me souviens, c'était la description de la descente d'un fleuve faite par un aveugle. Son imagination, qui n'est pas du tout la même que quelqu'un qui a la vision. L'imagination de quelqu'un qui est aveugle de naissance. C'est une imagination qui est très liée aux odeurs, au toucher, au mouvement. L'imagination que vous avez quand vous devez veiller dans une forêt en temps de guerre, c'est extraordinaire. Tous les bruits. Là, vous ne savez pas si c'est des oiseaux ou si c'est l'ennemi. Hein. Tous les bruits. Quand il fait noir, l'imagination. Oh. Les gosses qui ont besoin d'une petite lampe le soir ne peuvent pas supporter le noir. Parce que leur imagination s'envole, surtout quand l'ouïe est très développée. Parce que l'ouïe existe même la nuit. Alors, ça alimente l'imaginaire. Ça donne un bruit de feuilles, un bruit de vent. Je dis, c'est extraordinaire comme expérience. Il faut faire ces expériences-là et puis comprendre un tout petit peu ce que ça représente dans notre vie, l'imaginaire. L'imagination. Il faut connaître le domaine de l'imagination pour lutter contre l'imagination, pour le dépasser. Et la connaissance aide. Parce que si vous ne connaissez pas du tout ce domaine-là, vous n'arriverez jamais à distinguer l'intelligence de l'imagination. Aristote reconnaît des quantités de philosophes n'ont pas distingué les deux. Que dirait Aristote aujourd'hui? Est-ce qu'un Platon a su dépasser l'imaginaire? C'est une question intéressante, vous voyez. La contemplation de Platon est-elle une contemplation esthétique, artistique, ou vraiment une contemplation intellectuelle? L'intelligence liée à l'imaginaire, c'est une contemplation esthétique. dépasser l'imaginaire. Il faut se demander si, dans la connaissance phénoménologique du CERN, on dépasse l'imaginaire. Il faut se demander tout ça pour bien saisir qu'est-ce que c'est que l'imaginaire. Quel est le premier moment où il y a le dépassement d'imaginaire? Ça, nous le verrons après. Alors, à côté de l'imagination, il y a la faculté du souvenir. Pourquoi distinguer l'imagination et le souvenir? Parce que d'une certaine manière, dans l'ordre de l'exercice, voyez là, la phénoménologie ne regarde plus l'analyse de l'imagination, mais regarde le fluxus, l'exercice. On ne regarde plus que ça. Et alors c'est très intéressant, c'est que sans, au fond, la phénoménologie naît de ce mode imaginaire de notre connaissance. Dans l'imaginaire, il n'y a que le vécu. Il n'y a que le vécu. C'est l'intelligence qui fait la différence entre le vécu et l'objectif. À quel moment avez-vous fait la distinction entre le vécu et l'objectif? Quand vous êtes en face de la sensation distincte de l'imaginaire. Mais dans l'imaginaire, vous êtes dans le vécu. Le vécu est saisi par mode de réflexion. Le vécu imaginaire. Il y a un autre vécu, je sais très bien, il y a un vécu affectif, mais qui est très souvent supporté par l'imaginaire. Est-ce qu'il y a un vécu intellectuel? Est-ce qu'il y a un vécu contemplatif? Toutes ces questions-là que se pose l'imaginaire, que pose l'imagination. Je ne résous pas la question, on le verra successivement. Mais c'est très important de voir combien l'imaginaire a un rôle capital dans notre vie et comment il a engendré une méthode philosophique nouvelle. Alors, le souvenir, la mémoire. La mémoire, la réminiscence. C'est tout ce qui a été vécu dans le passé et qui est gardé par mode d'image. Vous n'avez pas de souvenir de la sensation, mais vous avez un souvenir des images, des représentations. Et le souvenir implique un ordre. L'imagination ne donne pas d'ordre. C'est un flash direct. Tandis que dans les souvenirs, il y a une question du passé qui intervient. La notion du passé intervient dans les souvenirs. Tandis que dans l'imagination, vous êtes au-delà du temps. Ah ! C'est très curieux. Les gens qui ont le temps de vision savent pas si c'est maintenant, passé, futur. La représentation, une représentation, un flash. Tandis qu'au contraire, la mémoire qui implique les souvenirs est liée au passé. C'est quelque chose qui a été vécu et qui reprend et qui a été vécu. Oh, il y a très longtemps où je me souviens de ça. Oh, c'est curieux, tout d'un coup ça revient. Oh, mais j'avais quel âge? J'étais tout petit. Oh, je me souviens très bien, je vois encore le lieu. Oh, mais j'étais tout petit. Alors on cherche la date. On se trompe de temps en temps, mais ça fait rien, on cherche les couches. Vous voyez, la méthode archéologique de l'imaginaire qui prend les couches successives. Alors on voit Foucault qui apparaît là. C'est les souvenirs imprécis. Les souvenirs imprécis, c'est bien ça. Est-ce que vous savez tous ceux qui incarnation qui dit ça. Ce brave chauffeur de taxi qui me dit ce que je parlais de. Il m'a demandé ce que je faisais alors, quand j'étais à Fribourg. Ah, tu vois, moi je suis. Mes ancêtres. Non, j'ai vécu en Grèce. Elle dit, tiens, quand, à quelle époque? Ah, mais. J'ai vécu en Grèce, mais je suis réincarné plusieurs fois depuis. Alors, je lui dis, alors, je vais vous parler grec. Ah, je vais complètement t'oublier. Il se souvenait très bien d'avoir joué à l'Agora. Les pieds nus. C'était le détail qu'il donnait. C'était... Parce que les... vous savez bien, les passions passent par le pied, n'est-ce pas? Et les émotions, alors, le pied qui bat, comme ça, l'orteil majeur qui bat. C'est très curieux, ça, parce que c'est... Et alors, il m'a parlé de tout ça. C'est très bien, j'écoutais, mais tout d'un coup, j'ai dit, mais alors, on va parler grec. Voilà. C'est ennuyeux. Le vécu, le déjà vécu. Alors, il y a la notion de temps qui intervient pour le souvenir et l'organisation des représentations. Puisque c'est ça qu'on contient, une organisation naturelle qui se fait. Puis alors, il y a une mémoire très organisée pour les examens, vous savez. Je veux retenir ça. Alors là, c'est très différent, parce qu'il y a l'intelligence qui intervient et qui organise. Alors, il y a des moyens mélodétiques. On essaie de mettre les liens entre eux. Il y a des gens qui ont une mémoire folle. Je me souviens d'un père dominicain. Il écrivait toujours ses sermons. Il suffisait de les écrire. Ils avaient quelquefois 10 pages pour qu'ils les sachent parfaitement. Et l'ayant écrit, ils pouvaient le réciter après. Mémoire d'éléphant. Mémoire folle. Tellement habitué. Marqué que c'est une force pour passer les examens. C'est extraordinaire. Ça s'entretient, la mémoire. C'est quelque chose qui implique un ordre. Donc, c'est plus proche de l'intelligence. Est-ce que l'animal a des souvenirs? La fidélité du chien. Un maître qui l'a quitté. Et 10 ans après, il revient. Et le chien le reconnaît. C'est bien la mémoire du chien. Il y a quand même quelque chose de curieux. Très curieux. Là, purement sensible. Lié à l'instinct. Lié sans doute à l'estimative. Donc, il y a ce phénomène de la mémoire qui est l'ordre qu'on met dans les représentations. Et cet ordre est lié au temps, au passé, déjà vu. Il n'y a pas de mémoire pour le futur. Il y a une mémoire pour le passé. Pour le futur, il y a simplement l'imagination. Et l'intelligence peut se servir de l'image pour se représenter ce qui arrivera après. Je crois que c'est l'intelligence. Ou la cogitative. On le verra. Donc je n'insiste pas plus sur la question du souvenir. C'est très lié à l'imagination. Tous les souvenirs passent par l'imagination. Il n'y a pas un passage direct des sensations et des souvenirs. C'est par la représentation. Et c'est pour ça qu'on se souvient beaucoup mieux de certaines choses qui nous ont marquées. Il y a des choses dans la vie qu'on n'oubliera jamais. Puis il y a des tas de choses qu'on oublie. Et les anciens avaient les fleuves de l'oubli. Le mythe de l'oubli. On se plongeait dans les eaux de leur rivière et on oubliait. Pas tout garder. Ce serait terrible si on gardait tout. Il y a des gens qui ont de mémoire. domination, il y a uniquement la succession. Quand il y a un ordre dans la succession, et c'est le souvenir. C'est pour ça que c'est une faculté intellectuelle, une faculté de connaissance qui reste dans le sensible et qui est déjà plus évoluée. Alors, avant de passer à l'intelligence, je voudrais voir avec vous tout l'aspect affectif. On n'a pas vu du tout. L'aspect affectif, l'instinct et les passions. L'instinct, ce que saint Thomas appelle l'appétit naturel. Alors là, il y a tout un problème très intéressant. J'ai posé la question à des psychologues qui ne m'ont pas encore donné de réponse. Ils ne me la donneront peut-être jamais. Alors si vous pouvez le faire, faites-le. L'appétit naturel. Et les modernes parlent de l'instinct. Les psychologues parlent de l'instinct. Quelle différence y a-t-il entre ces deux appellations? Et je ne sais pas à partir de quel moment l'instinct est apparu dans une réflexion psychologique. Parce que les psychologues, c'est toujours l'instinct. Et les philosophes, c'est l'appétit naturel. Alors pourquoi est-ce qu'on a là la même distinction que je faisais tout à l'heure entre imagination et imaginaire? Posez-vous la question. Et intéressant à voir à quel moment, de fait, les philosophes ont parlé de l'instinct. Je crois que c'est au moment où on a commencé à avoir une psychologie philosophique d'introspection, même de Biron, sans doute. L'instinct. Descartes parle des passions. Est-ce que le mot instinct existe chez Descartes? Il faut se poser la question. C'est intéressant parce que le mot, vous voyez, c'est comme pour la personne. Alors, je vais essayer d'expliquer comme imagination et puis imaginaire. L'appétit naturel chez saint Thomas, c'est très net. C'est l'orientation, le dynamisme, comme on dirait aujourd'hui. Une orientation dynamique impliquant vers le bien. Le bien émis naturellement. Le bien qui attire. Le bien sensible. Le bien spirituel. Parce qu'il y a un appétit naturel au niveau sensation, au niveau sensible. Au niveau végétatif, on a un appétit naturel vis-à-vis de l'alimentation quand on commence à avoir faim. Donc vous avez l'expérience. On commence à avoir faim. L'appétit naturel. Réfléchissez sur cet appétit naturel. S'il y avait subitement l'odeur d'un beefsteak qu'on est en train de cuire, n'est-ce pas ? On a envie de manger. Vous voyez ? Cet appétit naturel est éveillé par l'odeur d'un petit pain frais. Oui, petit déjeuner intentionnel. Quand on meurt de passer la nuit dehors, hein, ça peut arriver en pèlerinage, puis on passe dans un petit village à 4 heures du matin. On voit une seule fenêtre allumée, le boulanger. Vous passez tout près, ça sent une odeur merveilleuse, étonnante. Alors vous restez là un petit moment, vous faites votre petit déjeuner intentionnel. Et vous assimilez ça. Et votre appétit s'éveille, c'est l'apéritif. Alors vous éveillez votre appétit naturel. L'appétit naturel, manger. Soif et faim. L'appétit naturel vis-à-vis d'un bien sensible. Vous avez un appétit naturel vis-à-vis d'un bien spirituel, la vérité. éveiller ce désir, cette soif de connaissance de la vérité. Vous avez un appétit naturel au niveau de la volonté, le bien spirituel. Donc il y a un appétit naturel. Cet appétit naturel, vous ne le saisissez pas directement, vous le saisissez à partir de l'opération. À partir d'une passion, à partir d'une opération intellectuelle, à partir d'un acte volontaire. Cet appétit naturel, il est posé, il est inféré radicalement. Il y a un éveil en moi vis-à-vis de la nourriture. On actue ça. Les psychologues d'aujourd'hui savent très bien comment cet appétit naturel est actué par le contexte. Le contexte dans lequel s'éveille, le contexte, le milieu dans lequel s'éveille ça. Il y a un appétit naturel. Alors l'appétit naturel se distingue de l'appétit passionnel, la passion, qui est encore un appétit sensible, mais qui est très différent, parce que la passion exige une connaissance sensible. L'appétit naturel est éveillé par lui-même. Mais voyez, dans l'ordre de l'exercice, la passion et l'appétit naturel sont toujours liés. Toute passion présuppose un appétit naturel. Toute passion. Mais la passion n'est pas l'appétit naturel. Oui. L'éveil d'avoir faim est lié très très vite à la passion. Le concupiscible. Ah, j'ai faim. Et puis vous répétez ça 10 fois. Au bout de 10 fois, c'est impossible. Vous êtes obligé de vous lever pour aller chercher quelque chose. Tellement vous avez faim. Tandis que vous pouvez réfréner l'appétit naturel. Le gosse qui se met à crier parce qu'il veut avoir son biberon. Alors on peut taper sur la bouche. Là, vous pouvez agiter une sonnette. Et en agitant la sonnette, vous faites un transfert. Vous voyez comment on est le transfert. Vous faites passer l'appétit naturel du biberon, de la soupe, de la salade, l'appétit naturel à autre chose, par le point de vue passionnel. Alors quand ça se prolonge trop longtemps, ça devient dangereux. Alors l'instinct, les modernes, la définition de l'instinct, c'est un appétit naturel, mais à la place de regarder cet appétit naturel quant à son objet, vous ne regardez que l'exercice. Je ne prolonge pas pour qu'il n'y ait pas de transfert.